Allô, allô, ici Ciné Herry.
En 1949, sort sur les écrans, au Royaume-Uni et en France, The Third Man, le troisième homme. Ce film britannique, en noir et blanc, réalisé par Carol Reed, reçoit cette année-là le Grand Prix du Festival de Cannes. Il s'agit d'un thriller produit par Alexander Korda et David Zelznick. On doit le scénario à l'écrivain britannique Graham Greene, célèbre auteur de thrillers, mais également auteur de romans plus classiques comme La puissance et la gloire, qui lui valut un grand succès. Certains de ses ouvrages tels que Le facteur humain, Notre agent à la Havane ou encore Un américain bien tranquille réconcilient les deux genres dans lesquels il excellait. Recruté au sein du MI6 par l'agent Philby, Graham Greene a su restituer dans ses livres l'univers de l'espionnage qu'il pratiqua lui-même au profit du Royaume-Uni. Et le scénario du troisième homme traduit bien cette atmosphère étrange et angoissante qui caractérise ses livres. Dans le troisième homme, le rôle principal est interprété par le comédien américain Joseph Cotten, qui a notamment tourné auparavant dans Citizen Kane en 41 et La splendeur des Amberson en 42. Deux œuvres qui deviendront rapidement cultes et ont été réalisées par son ami Orson Welles, films dans lesquels ce dernier tient le rôle principal. Ensuite, en 1943, Joseph Cotten interprétera un rôle à contre-emploi, celui d'un serial killer dans A Shadow of a Doubt, L'ombre d'un doute, l'un des plus beaux films d'Alfred Hitchcock. Outre Ali Davali et Trevor Howard, la distribution du troisième homme comprend surtout Orson Welles. En effet, bien que le comédien et réalisateur américain n'apparaisse qu'à la moitié du film, la performance qu'il réalise dans deux morceaux d'anthologie ont rendu sa présence inoubliable. Je veux parler ici de la scène tournée au Prater avec la fameuse réplique improvisée du Cuckoo Clock et de la traque qui se déroule dans les égouts de Vienne. La musique envoûtante contribue à créer un climat aussi mélancolique qu'inquiétant. L'air de sitar obsédant, composé par Anton Karas, reste aujourd'hui encore dans l'histoire mondiale du cinéma tout à fait exceptionnel. L'action se situe à Vienne, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Le film est tourné en décor naturel dans cette ville alors totalement dévastée. La guerre froide vient de débuter et la capitale autrichienne est occupée par les vainqueurs. Elle est ainsi divisée en quatre zones, administrées respectivement par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union soviétique. L'ordre est assuré au centre de la cité par une police internationale composée de ces quatre puissances. Il règne dans l'ancienne capitale de l'Empire austro-hongrois une importante pénurie de vivres qui n'a d'égal que la corruption, au point que le marché noir qui porte sur des trafics en tout genre règle entièrement la vie quotidienne de ses habitants. Holly Martins, incarné par Joseph Cotten, est un romancier américain sans notoriété, un écrivain raté qui boit trop, ainsi qu'il se définit lui-même, ou si l'on préfère un écrivaillon, comme le qualifie plutôt le major Calloway, interprété par Trevor Howard. Holly Martins débarque à Vienne car il est invité par son ami Harry Lime. Mais il apprend dès son arrivée que ce dernier vient de mourir dans des circonstances mystérieuses, voire suspectes. Croyant que son ami a peut-être été assassiné, l'écrivain décide d'enquêter. Il est bientôt rejoint dans son entreprise par l'amante d'Harry Lime, Anna Schmidt, rôle interprété par Ali Davali. Enquêtant et déambulant dans une Vienne en ruine, l'écrivain Holly Martins apprend qu'un trafic de pénicilline sévit dans la ville. En effet, grâce à des complicités, des trafiquants volent ce produit dans les hôpitaux, puis le diluent avant de le vendre pour accroître leurs gains. Or, rendu ainsi inopérant, le médicament contrefait est à l'origine de nombreux morts par méningite. Certes, Il s'agit ici d'un thriller britannique, un film noir qui répond très brillamment aux lois du genre et sait tenir de bout en bout le spectateur en haleine. À ce titre, il s'inscrit dans la continuité de The Man Who Knew Too Much, L'homme qui en savait trop, ou The 39 Steps, les 39 marches d'Alfred Hitchcock, ou bien encore The Upturned Glass, la vengeance du Dr. Joyce de Lawrence Huntington. Mais par sa beauté crépusculaire, son travail sur la lumière, son jeu de clair-obscur, bref, son inquiétante étrangeté, cette œuvre représente aussi un magistral exercice de style. Certaines scènes semblent parfois rendre hommage au chef-d'œuvre de Lang, M. le Maudit, notamment lorsque dans plusieurs plans marqués par l'esthétique expressionniste, on voit tout d'abord un garçonnet jouer apparemment en toute innocence au ballon, puis dénoncer tout à coup un prétendu coupable. Cette délation enfantine entraînant aussitôt une foule hystérique dans une chasse à l'homme. Certes, c'est aussi l'histoire d'un homme qui aime une femme qui en aime un autre, une femme qui vit sous une fausse identité et une fausse nationalité par peur d'être livrée aux Russes. Certes, cette réalisation montre, au lendemain de la guerre, une ville déchue, qui est en proie au marché noir et aux mains de réseaux criminels. Une ville sans institution étatique, livrée simplement à un état de nature, face auquel les forces de la police internationale ne semblent pas pouvoir grand-chose. De ce point de vue, en évoquant les ravages humains causés par la contrefaçon d'un produit pharmaceutique, le film rencontre aujourd'hui un singulier écho avec l'actualité internationale. Mais il s'agit aussi d'un film qui évoque la grandeur et la déchéance de Vienne. La Vienne illustre, celle du Saint-Empire romain germanique. Puis la Vienne de 1815, celle du chancelier Metternich, qui réorganisa l'Europe pour près d'un siècle. Celle enfin qui devint en 1867 la capitale de l'Empire austro-hongrois, berceau de la grandeur des Habsbourg, une grandeur qui s'effondrera dans le fracas de la Grande Guerre. Comment ne pas songer ici à Joseph Roth, à la marche de Radetzky ou encore à la crypte des Capucins, deux romans qui ont si magistralement retracé cette lente descente aux enfers d'un empire à bout de souffle, d'une prison des peuples anéantie. Si présente dans le film, la mélancolie reste de mise car la Première Guerre mondiale a mis fin à l'Empire d'Autriche-Hongrie et Vienne est alors devenue la capitale d'un État autrichien dont le territoire et la puissance politique se sont retrouvés sévèrement réduits. Enfin, en 1938, Vienne et toute l'Autriche ont été lors de l'Anschluss purement et simplement annexées par l'Allemagne hitlérienne. Après la défaite du régime nazi, nous retrouvons donc dans le film une Vienne déchue et découpée comme Berlin. Je n'ai pas connu Vienne avant la guerre, avec sa musique et son charme facile. C'est sur cette remarque désinvolte du narrateur que débute d'ailleurs le troisième homme. Vienne est donc devenue en quelques années une ville détruite et dominée, la capitale d'un État qui n'existe plus. Et ce film nous raconte aussi, mezza voce, l'histoire de ce drame. C'est la logeuse d'Anna Schmidt qui exprime dans ce film toute la nostalgie d'une splendeur à jamais perdue. Seul personnage de nationalité autrichienne à s'exprimer en allemand, cette vieille femme, témoin vivant d'une époque révolue, manifeste à plusieurs reprises sa rage impuissante et dérisoire. Lorsque l'appartement d'Anna, situé dans un ancien palais, est envahi par le major Calloway et ses hommes pour perquisitionner le lieu sans ménagement, elle multiplie en vain les protestations contre ce qu'elle estime être un outrage, une véritable profanation historique. Elle s'exclame alors « Des princes ont séjourné ici, Metternich y a vécu, vous n'avez pas honte ? Ce faisant, elle nous donne à voir combien le deuil de la puissance passée est alors impossible pour les Autrichiens.